RMC. Grand Plateau. Georges Quirino.
Buongiorno, ciao à tutti, bienvenue dans Grand Plateau qui se met au rose. Et oui les amis, pour la 109e édition du Giro d'Italia, on va arrêter l'accent ici parce que c'est assez minable. Le Tour d'Italie s'élance ce vendredi de Bulgarie pour 3 semaines de course jusqu'à Rome le 31 mai prochain. Un favori écrasant, on l'a déjà dit, c'est Jonas Vingegaard, vous en a parlé en début de semaine, vous pouvez retrouver le podcast. Aujourd'hui on va disséquer ce parcours, 3 jours dans les Balkans avant de rejoindre la Calabre, un premier test au Blocos, la montée légendaire des Abruzzes, un long chrono individuel de 40 km et puis les deux dernières semaines dans le nord du pays, les Alpes, les Dolomites, avant de parader dans la ville éternelle. Aujourd'hui c'est très simple, on va vous dire où va se jouer le Giro. Grand Plateau vous fait votre carnet de route du Tour d'Italie aujourd'hui. J'ai dit qu'on se mettait au rose, lui il a décidé de mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est Pierre Cocchette qui est venu en tenue italienne, il faut le dire, il faut le décrire pour ceux qui ne le voient pas en image. Salut Pierre.
Salut, c'est la veste d'hiver de l'équipe Amorevita.
Magnifique.
Qui a un certain nombre de sponsors et un certain nombre de couleurs.
Ouais.
Toutes en fait.
Oui, c'est ça. Alors je peux vous parler, il y a du bleu, du rose fuchsia, de l'orange, du jaune, du bleu, tous les bleus en fait, et toutes les pubs de l'Italie, il y a toutes les marques de l'Italie,
voilà,
en fait.
C'est sur ça. Gros besoin d'argent chez Amorevita, j'ai un peu.
À l'époque, ouais. Non, c'est vrai que les maillots italiens, ils sont souvent chargés. Hein.
Ouais, c'est. Ouais. T'as pas un sponsor, t'as. Ouais.
Bah, c'est pas juste Polti par exemple, ouais. C'est Polti et toutes les marques. Bonjour François Delataille.
Salut Georges.
Plus sobre, avec
plus sobre,
un t-shirt crème, sans sponsor.
Moi, je suis déjà sur le maillot blanc du Tour de France.
Les gars, le Giro, il y a toujours un truc quand même dans l'air, ça nous fait toujours un peu rêver le Tour d'Italie, même si ça part de Bulgarie. Cette année, on s'est habitué maintenant à ces départs, c'était parti d'Albanie l'année dernière, si je ne me trompe pas.
Albanie, ouais.
Mais donc cette année, on aura donc ce départ près de la mer Noire. Alors d'ailleurs, je vous invite déjà à aller sur rmcsport.fr parce que franchement, les équipes du site ont dressé le parcours complet des 21 étapes avec des étoiles pour l'intérêt et la difficulté de la course. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors disons-le tout de suite, c'est vrai que pour le classement général, on l'a déjà dit dans le podcast lundi, voilà, Vingegaard est au-dessus, on semble pas, on va dire, se diriger vers le Tour d'Italie avec le plus de suspense de l'histoire pour la victoire finale. En revanche, ça peut être intéressant le Giro dès le début, parce qu'on a un gros plateau de sprinteurs, François. En préparant, on se disait quand même, pour intéresser les gens à ce Tour d'Italie, il fallait quand même parler de ça largement.
Ouais, très gros plateau de sprinteurs, avec déjà le meilleur d'entre eux, je dirais, c'est Jonathan Milan, et l'aspirant meilleur d'entre eux, qui est Paul Magnier, le français. Mais il y a aussi Tobias Lund Andresen, il y a aussi Caden Groves, il y a aussi Dylan Groenewegen, qui fait un très bon début de saison. Peut-être Arnaud Delis, dont la participation est un peu, là ces derniers jours, un peu compromise par une affaire de bouse de vache, mais on verra s'il est au départ. En tout cas, il y a beaucoup de sprinteurs, et pas mal d'étapes pour sprinteurs, donc ça devrait, le maillot cyclamen devrait être pas mal disputé.
Le maillot cyclamen, qui est le maillot vert, on va dire, du Tour de France, pour ceux qui, après la découvrir, le Tour d'Italie. Ah non, mais je le dis, parce que tu sais qu'avec la folie Sexas, maintenant, il y a un nouveau public qui vient également vers le vélo. Non mais c'est vrai que voilà, les premières étapes, surtout, il y a des étapes de sprint qui sont très intéressantes à suivre sur ce Giro, Pierre.
Voilà, d'autant plus que, en plus d'avoir des sprinteurs de renom et nombreux, il y a aussi des équipes de sprinteurs. Même si, à part Unibext Rockets, qui va être complètement dédié à Groenewegen, que ce soit la Lidl Trek, ils vont aussi jouer le général. Pareil pour Decathlon CMA CGM, qui va aussi jouer le général avec Félix Gall. Donc, il n'y aura pas à chaque fois des équipes entières, mais il y a un paquet d'équipes qui vont quand même avoir intérêt à ce que ça se joue au sprint et à mettre en place des stratégies pour que les sprinteurs passent les bosses, parce qu'il y a assez peu d'étapes complètement plates aussi. Et donc il va falloir faire passer au maximum les bosses aux sprinteurs.
Moi j'ai noté 4 arrivées au sprint évidentes, a priori, pourrait y en avoir 6 si jamais les équipes de sprinteurs se mettent en route.
Ouais, et surtout en fait c'est pas un hasard s'il y a beaucoup de sprinteurs de renom sur ce Giro, c'est aussi parce que les premières étapes vont se jouer au sprint, donc il y a un maillot rose à décrocher pour un sprinteur, et c'est pas le cas à chaque fois, ça peut être plus difficile pour eux d'accéder à ce genre de tunique, et donc forcément on voit bien que le début de ce Giro va être très disputé justement pour cette raison.
On enregistre le podcast le jeudi à la veille du départ en Bulgarie, peut-être que vous l'aurez écouté déjà au moment où ce sera parti, Pierre.
Et attention, qui dit premières étapes de sprint, dit premières étapes tendues.
Nerveuses.
Dit, par ailleurs, alors je confesse que n'étant jamais allé en Bulgarie, je ne connais pas la qualité des routes en Bulgarie, mais on avait été assez marqué par les routes dangereuses en Albanie et avec une qualité assez médiocre qui a occasionné des chutes et des problèmes pour les principaux favoris. C'est pas ce qu'on souhaite, mais pour les prétendants au classement général, c'est un petit bourbier quand même, ces trois premières étapes dédiées aux sprinteurs qui vont aller très vite avec une immense bagarre dans les derniers kilomètres.
J'ai eu la chance de déjà aller à Sofia pour interviewer Emil Kostadinov, tiens, mauvais souvenir pour le public français de foot notamment.
T'as analysé le tarmac un peu?
Il y avait des petits pavés, je me rappelle, quand même, à Sofia. Je sais pas si c'est très important pour prévenir les sprinteurs, mais il y a un tramway aussi, je sais pas si on va passer là-dessus, mais attention les rails de tramway, on sait toujours que c'est le plus grand ennemi d'un peloton. Paul Magnier, c'est son deuxième Giro. Hein. L'année dernière, il était en découverte, il n'avait pas eu de victoire d'étape. Il arrive avec un autre statut désormais, on est d'accord. Il a quand même un objectif d'aller gagner une, voire deux étapes. C'est un rendez-vous important pour lui après un début de saison un peu plus difficile.
Ouais, un début de saison un peu plus difficile, mais une fin de saison dernière où il était quasiment imbattable. C'est assez rare d'avoir quelqu'un qui gagne tous les jours avec autant de régularité. Et on avait l'impression qu'il y avait plus personne n'avait la solution pour le battre. Donc ça va être intéressant de voir par rapport à son Giro de l'an dernier où il était assez transparent et alors qu'il arrivait avec des ambitions. On va voir s'il a vraiment passé un cap cet automne.
La marche est assez haute pour Paul Magnier parce qu'effectivement l'année dernière, il avait galéré sur ce Giro qui était pourtant pas super élevé en termes de niveau de sprinter, et il avait étincelé sur des courses, on va dire, quand même de deuxième catégorie, parce qu'on parle du Tour de Slovaquie, etc.
Tour de Bonch, oui.
En fin de saison, mais il battait quand même quelques noms sympas. Là, ses deux objectifs de l'année, c'était les classiques, commencer à faire quelque chose, coureur Quick-Step, etc.
C'était compliqué.
Voilà. Il a galéré, il a eu plein d'ennuis qui ne sont pas sur sa faute, il a eu des ennuis un peu plus en termes de placement, en termes où ça c'est un peu plus, on va dire, le métier qui rentre.
Ouais, voilà, c'était une vraie découverte pour lui.
Normal,
voilà.
Ouais, c'est ouais. Normal. Et l'autre gros objectif, c'était des victoires sur des grands tours, face au top niveau. Bon, bah, c'est maintenant. Voilà, le premier objectif pas atteint, le deuxième, c'est maintenant.
Non, on se rappelle que c'était en Italie notamment qu'on avait commencé à voir Arnaud Démare, hein. Souvenez-vous aussi se montrer sur le Giro, donc c'est une bonne fenêtre pour lui, même si on l'a dit, le plateau est quand même relevé, hein, parce que pour aller battre Jonathan Milan, Canen Groves, qu'il avait battu l'année dernière, ou même Dylan Groenewegen, voilà. Dis-moi qui tu bats, je te dirai qui tu es, peut-être qu'on pourra dire à Paul Magnier qui il est vraiment après ce Tour d'Italie. Je lui disais 3 jours en Bulgarie, et après bon, on va arriver en Italie par le sud de la botte où va commencer à se jouer le classement général, même si j'ai une idée assez précise, François.
Bah, il y a quand même cette grosse étape du Blocos qui semble.
Septième étape, voilà. Le vendredi 15 mai.
Avant ça, il y aura les sprinteurs vont pas garder le maillot rose jusque là parce qu'il y aura des étapes un peu plus vallonnées où il y aura sans doute une échappée, une opportunité pour les équipes qui n'ont ni gros prétendants ni sprinteurs pour aller chercher ce maillot rose. C'est toujours prestigieux de le porter quelques jours, mais après l'explication entre favoris, elle va vraiment débuter sur cette grosse étape du Blocos avec une montée finale très dure. Et là, c'est là où on va voir si Vingegaard va vraiment saccager la concurrence ou non.
S'il va vouloir. On se souvient que la dernière fois que c'était passé au Blocos, Remco Evenepoel, qui était l'immense favori, avait finalement pas profité du moment pour assommer la course, et résultat, il était descendu en hélicoptère, il avait chopé le Covid dans la descente.
Et Remco n'est pas Vingegaard.
Voilà. Et donc je pense qu'il y aura quand même un enjeu un peu différent pour Vingegaard qui... Attention, je vous dis ça comme ça, l'étape d'avant, Paestum Naples, qui est très plate, mais les rues de Naples sont extrêmement piégeuses. On ne sait pas encore quelle sera la météo, mais ça par contre, en tant que vous êtes un des favoris, c'est vraiment un truc où il va falloir faire attention et accepter de perdre 30 secondes sur une cassure pour éviter la chute.
Je ne sais pas si vous êtes allé voir l'arrivée de cette étape de Naples. L'arrivée, c'est une folie furieuse, c'est-à-dire qu'à 600 mètres de la ligne, vous avez un angle droit, ensuite vous avez un secteur pavé, ensuite vous avez une épingle à cheveux à 400 mètres de la ligne, et ça arrive sur des dalles en pierre. Enfin, il y a tout réuni si, pour une arrivée
ça,
du Giro.
C'est patinoire.
Ouais. Bon, ça, on se place, et puis à 3 km, on s'écarte, on dit, les amis, c'est pour vous le sprint, nous on va rester tranquille.
S'il y a une cassure, tu perds du temps.
Tu perds du temps, bien sûr, exactement. Juste l'étape du Blocos, on en parlait, la distance de 244 km. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit une distance comme ça sur un grand tour en fin de première semaine. Ce sera quand même intéressant. Moi, j'imagine bien, on a parlé hein, de la faculté de Vingegaard à peut-être survoler ce Giro, mais moi, je l'imagine bien essayer de se mettre à l'abri quand même assez rapidement pour pas trop se fatiguer sur la dernière semaine, un peu un Giro à la Pogacar, je fais l'écart et ensuite je gère pour pas griller trop de cartes dans la bataille. Donc c'est pour ça que moi aussi je vois cette septième étape et la montée du Blockhaus avec la volonté peut-être pour lui déjà de dire, bon les amis, le maillot rose c'est pour moi, vous jouez le podium derrière. Quoi.
Bah moi je le verrais bien, effectivement je suis assez d'accord avec toi, et en même temps je vois bien donc écraser tout le monde sur le Blockhaus, prendre ses 3-4 minutes d'avance sur les concurrents les plus sérieux, et ensuite le lâcher un peu plus tard. Par exemple le maillot tu peux le lâcher sur la 11e étape qui peut potentiellement être une échappée d'une demi-heure d'avance, et donc tu laisses un baroudeur avec le protocole du maillot rose, t'as quand même fait l'écart sur tes concurrents les plus sérieux, et t'es tranquille, tu peux maîtriser la fin de ton Giro, tu le reprends quand tu veux.
Alors vous l'avez déjà un peu dit, vous avez parlé de l'arrivée de Naples, c'est pour vous ça l'étape piège pour Jonas Vingegaard? Alors en préparant l'émission j'ai dit ce serait un peu l'étape du Lioran, vous savez, parce qu'à chaque fois les étapes du Massif Central sur le Tour de France, il se passe des trucs où il pleut, c'est tellement des étapes toboggan, mais si vous étiez directeur sportif de l'équipe Visma, quel jour il faut faire plus attention que l'autre?
Alors pour moi deux choses. D'abord, l'étape piège, je la vois plutôt comme une étape très vallonnée avec une succession de petites montées qui, en fait, te font perdre tes équipiers, tu te retrouves un peu seul et c'est là où tu es un peu à la merci de tout le monde. Il y en a deux comme ça. Il y a Chieti Fermo, qui est donc le lendemain du Blockhaus et la veille d'une autre arrivée en altitude. Et il y a celle dont parlait François, qui est celle qui a varié le mercredi 20 mai. Une fois qu'on a dit ça, Je me dis que c'est exactement ce que j'avais dit sur la Vuelta de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une étape au Pays Basque qui était un enchaînement de petites montées et petites descentes où je me suis dit, attention, Vingegaard, gros favori, c'est là où il va perdre du temps. Et bon, cette étape n'est pas arrivée au bout parce que vous souvenez du scénario. Néanmoins, à la toute fin, Vingegaard, il s'en était sorti comme un chef.
Mais franchement, il s'est quand même rarement piégé.
Donc voilà, peut-être qu'en fait, l'étape piège, c'est pas ça. Peut-être que l'étape piège, c'est une étape de sprint qui va trop frotter. Peut-être que l'étape piège, voilà, c'est une étape où il y aura un problème météo, d'un orage. On sait que la météo au Giro, ça joue un rôle colossal. Donc, moi, si j'étais directeur Visma, je serais inquiet parce qu'en fait, l'étape piège, je la connais pas encore.
Ouais, oui, non, mais c'est vrai, elle va dépendre de ce qui se passe dans le ciel italien.
Voilà, c'est pas un problème de parcours, comme ça, c'est un autre problème. Et on le connaît pas encore.
François, tu as dit tout à l'heure, peut-être que la 11e étape pour Porcari et Chiavari sera une opportunité de lâcher du temps et pourquoi pas le maillot rose s'il y a une échappée longue. Et moi, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'au soir de la 10e étape, le mardi 19 mai, c'est-à-dire du contre-la-montre de 42 km entre Viareggio et Massa, est-ce que le classement général ne sera pas déjà totalement mort sur un contre-la-montre de 42 km. J'ai regardé le parcours, il y a 20 km sur le littoral. Hein. C'est un long bout droit comme ça. S'il y a plus de 10 virages, c'est énorme. Je crois qu'il y en a une dizaine. Mais des virages, c'est pas des virages très techniques. Hein. Mais est-ce que le classement général ne sera pas déjà terminé à ce moment-là, franchement? Bah,
compte tenu de la start list, en fait, dans les candidats au classement général, il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de Vingegaard sur le contre-la-montre. Donc en fait, c'est un boulevard pour lui pour prendre plusieurs minutes d'avance sur la concurrence. Donc oui, j'ai bien peur que cette 10e étape, ce soit vraiment le moment où le Giro bascule pour de bon. Après, dans les faits, il y aura peut-être, ça veut encore une fois pas dire que Vingegaard aura le maillot rose du début à la fin, mais il aura déjà fait la différence sur les mecs les plus menaçants.
Je me rappelle, Pierre, tu disais lundi quand on faisait le podcast que les organisateurs du Tour l'avaient peut-être dessiné pour Remco Evenepoel, qui finalement n'est pas là avec ce long chrono. Mais c'est vrai que là, il est immense au milieu du parcours, hein, ce chrono de 42 km, et avec personne vraiment pour embêter Vingegaard. Alors, sauf peut-être Ganna pour gagner le chrono, quoi.
Oui, voilà, il gagnera peut-être pas, mais en tout cas, Ganna n'est pas menaçant au classement.
Exactement, ce sera pas menaçant. Pierre, sur ce chrono.
Ouais, bah ça va être. C'est un boulevard pour. C'est un boulevard pour.
Ce qui est tout plat.
Ouais. Et moi, je le vois finir avec potentiellement 3 minutes sur Pellizzari.
Mais c'est, du coup, on parlera plus du classement général, vous pensez, après? Et après, c'est quoi? Derrière, on arrive dans le nord de l'Italie. Évidemment, on va enchaîner avec les Alpes et les Dolomites. Donc, c'est quoi? Derrière, il faut s'attendre à plus de spectacles parce que, on le sait, les coureurs italiens, les grimpeurs italiens, peut-être, perdus pour la victoire finale, vont essayer de mettre un petit peu de piment. On peut voir des remontées. Je pense notamment peut-être à la 14e étape dans les Alpes avec plus de 4000 mètres dénivelé positif entre Aoste et Pila. 5 ascensions au programme. C'est quoi, ça va être vélo champagne sur la fin?
Ouais, Aoste, Pila, 133 km, 4000 mètres de dénivelé. Effectivement, ça peut être un sacré bordel. Mais pas pour la victoire finale, pour des access sites, pour des maillots blancs, pour des maillots de la montagne, enfin, c'est un grand tour, il n'y a pas que la victoire finale qui compte, il y a plein d'enjeux différents qui vont faire que ça va être très animé, mais pas forcément Vingegaard contre Pellizzari. Peut-être qu'à ce moment-là, Pellizzari aura lâché et sera là pour la montagne ou pour le maillot blanc.
Même si on a déjà vu des remontées invraisemblables hein, dans le Giro, c'est le grand tour le plus invraisemblable, hein, de par la météo, la chute de Kreuzweig, la remontée de Froome.
Le tracé y en a des arrivées.
Nibali, ouais, les
hélicoptères. Ou ne serait-ce que l'année dernière, hein, ouais. Qui défie toute logique. Encore une fois, c'est vrai que là, on parle beaucoup de Vingegaard, grand favori, etc. C'est rarement le grand favori au départ du Giro qui l'emporte, et encore une fois...
Enfin, Pogacar a gagné. Hein.
À part Pogacar, mais l'année dernière, les favoris, c'était ni Del Toro, ni Yates, ni Carapaz.
Ouais, mais bon, c'était pas non plus un plateau avec une figure écrasante, en fait. C'est ça aussi qui s'est passé l'année dernière, donc c'est ça qui... nous dit que ça va être un Giro déjà complètement différent de ce qu'on a pu voir l'an passé. À quoi tu t'attends dans les Alpes et dans les Dolomites? Voilà, il y a l'étape Rennes également à 2 jours de l'arrivée à Rome dans les Dolomites, avec 5 ascensions dans le Passo Giau qui est la Cima Coppi. Voilà, c'est le sommet le plus important.
Ce parcours, c'est que la dernière semaine n'est pas un immense gâteau d'étapes de montagne non-stop.
Mais c'est pas le Giro le plus dur depuis des années, hein, très clairement. Hein. C'est pas le Giro le plus montagneux.
La critique qui était avant de dire, bah, en fait, on fait 2 semaines de plat et on te met une semaine de montagne, qui en fait rendait le truc un peu soporifique les 2 premières semaines, n'est pas là. Là, il y en a un peu avant, un peu après. Il y a du sprint entre 2 étapes de montagne, donc... Ça fait une dernière semaine un peu moins indigeste et un peu plus ouverte en fait à différents scénarios.
Mais c'est de toute façon un Giro moins montagneux. Hein. Je crois que j'ai compté, il y a 6 arrivées, 6 étapes de montagne, de vraies étapes de montagne. D'habitude, il y a des années où on est sur une orgie de montagne. C'est pas le cas du tout. Donc, moi, je dirais que cette 19e étape, c'est peut-être la plus difficile, elle est très très dense, mais c'est finalement la seule vraiment très très difficile. Les autres, c'est des bonnes étapes de montagne, mais elles sont surmontables pour le peloton. Enfin, on va pas forcément avoir une orgie. Et c'est aussi ce qui me fait me dire que oui, à mon avis, on va avoir beaucoup d'échappées avec beaucoup d'avance sur le peloton. Et c'est des trucs qu'on voit de moins en moins au Tour de France, mais qu'on voit encore beaucoup au Giro, des échappées avec une demi-heure d'avance. Et ça va être, comme tu le disais tout à l'heure, d'autres enjeux qui vont nous intéresser. Ça va être, on se souvient de l'échappée magnifique de Julien Alaphilippe avec Maestri, où il y avait une belle bromance qui était née de tout ça. Et c'est des scènes qu'on voit beaucoup au Giro et que je m'attends à voir cette année.
Et il faut se dire aussi que l'équipe qui va prendre la course à son compte, a priori, à Visma Liseberg, n'a pas le même tempérament rouleau compresseur que UAE. On les voit bien effectivement laisser partir des gens qu'ils estiment pas dangereux et dire nous, il n'y a que le général qui nous intéresse, donc si vous voulez des étapes, si vous voulez des maillots blancs, si vous voulez machin, c'est vous qui roulez.
Il sera avec Jonas Vingegaard, avec Kampenaerts, avec Wilco Kelderman, avec Sepp Kuss notamment, hein, dans son équipe.
Oui, il a une bonne équipe, hein, mais pas une équipe pour rouler sur la course du premier au dernier jour. C'est clairement pas l'objectif. L'objectif, c'est la victoire finale à la fin.
Donc toi, t'imagines dans la semaine où on voit souvent dans la semaine, tu sais, on voit les maillots Polti et Bardiani, on découvre de nouveaux coureurs italiens. On se dit ah tiens, celui-là il va être pas mal là. Et puis après, bah, souvent ça dure pas longtemps.
C'est le marché aux coureurs italiens.
C'est ça, exactement, pour les autres équipes. Mais vous savez quoi, en même temps, dans notre discussion là, je me dis aussi que Je serais également pas surpris de voir un Vingegaard voulant gagner plusieurs étapes. Marquer les esprits, parce que on l'a tellement vu protagoniste depuis le début de la saison, un peu différent, un peu vouloir montrer « Regardez, moi aussi, je suis capable de faire le spectacle, je suis capable de partir de loin. » Moi, sur Paris-Nice, il m'a un peu étonné, hein, franchement. Sur le Tour de la Catalogne, on l'a vu quand même aussi présent. Dans la communication, on le voit plus ambitieux dans les mots. Hein, il le dit « J'ai envie de dire que bah, cette année, c'est mon tour pour le Tour de France. » Je m'interdis pas de le voir gagner, je sais pas.
Ouais, mais je pense
3,
que...
4 étapes, je c'est pas impossible.
Il en a marre qu'on le mette dans une autre catégorie que Pogacar. Qu'on dise, il y a Pogacar et ensuite il y a toi. Et donc régulièrement, comme tu le dis, il rappelle, hey, vous savez, j'ai quand même battu deux fois.
Mais enfin, c'est bon, ça, c'est... je serais pas étonné, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu qui a changé dans sa tête. Tu crois pas trop, Pierre? Tu crois qu'il va être prudent sur le...
Non, mais, attendez, 3 victoires d'étape pour un vainqueur de Grand Tour, c'est bien déjà. Enfin, le truc, c'est qu'on est habitué à Pogacar qu'on fait 6, 7, donc qui prend la moitié des étapes ou un tiers des étapes.
Mais je le sens dans la volonté de marquer les esprits.
Oui, c'est possible.
Non, non, mais... D'assommer, je sais pas, mais...
Mais là, j'envoie un message. J'en vois au moins 3. Pas sûr, mais tu vois, entre le blocos, le contre-la-montre et je pense Corno à l'escalier, qui est aussi une belle montée finale. C'est déjà... Enfin, ils sont quasiment... Enfin, il y a de quoi faire, quoi.
Bon, l'arrivée finale, ce sera comme d'habitude... Enfin, comme d'habitude, non, mais ce sera à Rome, le 31 mai. Ce sera une parade de sprinteurs. Hein. Quand est-ce qu'ils vont nous trouver la Via Le Pic, les Romains, là?
Non, Rome, mais c'est vrai.
Il y a de quoi faire, en plus, franchement, non, à Rome, pour trouver des trucs,
là. Bah, Naples aussi, puis ils ont fait un truc bien... Ouais. Bien dangereux, donc finalement...
On pourrait faire une arrivée à Naples, une arrivée finale, ça serait plus intéressant peut-être, quoi, sur ce Tour d'Italie. Giro d'Italia, donc, qui commence ce vendredi, vous nous écoutez peut-être avec un Tour d'Italie qui est déjà parti de Bulgarie, et que l'on va suivre, évidemment, au fur et à mesure, tout au long de cette compétition. Voilà pour le Tour d'Italie, tu vas nous mettre une nouvelle tenue à chaque podcast sur le Giro? T'en as d'autres?
Ça dépend,
Pierre,
ouais, on va voir.
T'as un maillot Mercatone Uno? T'as quoi, Polti? Tu l'as?
On va voir ce qui est possible.
On va voir ce qui est possible. En fait, il va aller sur Vinted, il va chercher des trucs. Demande à Marc Madiot, parce que tu sais que tous les week-ends dans la Grande Gueule du Sport, il vient à chaque fois avec un pull différent.
J'ai vu, mais après.
Italien. Attends, en laine, il fait un peu chaud.
Je ne me compare pas à Marc Madiot quand même.
Ah non.
Restons à notre niveau. Hein.
Bien sûr. Merci les amis, je vous tiens au courant quand même. Grand Plateau va évoluer ces prochaines semaines. Voilà, on va changer de nom, tout ça. Alors, vous inquiétez pas, toutes vos habitudes ne vont pas partir dans tous les sens. Hein. Si vous êtes abonné à la chaîne, ça va rester la même façon. Mais voilà, on va essayer de prendre le pouls de tout ce qui se passe actuellement, de l'énergie qu'il y a derrière le cyclisme, pour vous proposer plus de choses encore. Ce sera pour avoir une activité encore un peu plus complète, hein, Pierre. C'est ça, on est d'accord?
Voilà, plus de contenu, plus de vidéos, plus de podcasts, plus d'articles, plus de plein de choses. D'ailleurs, le Giro, vous pouvez le suivre tous les jours en direct commenté sur le site RMC Sport. Et puis en podcast évidemment régulièrement.
Voilà, le but c'est d'élargir la communauté aussi, que vous ayez plus de façons, vous, de vous adresser à nous également après nos podcasts, et pourquoi pas même pendant nos podcasts. Merci Pierre, merci François. Je me rends compte que je sais pas dire au revoir en italien. On dit quoi? Ciao, c'est bon.
Arrivederci.
Allez, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast, et bon Giro.